Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Balade citadine, mais aussi balade sur la route des vins de France à la suite d'un jeune homme curieux, original et solitaire qui va s'initier à l'œnologie, à l'amitié et à l'amour. Occasion pour le lecteur de découvrir le monde du vin, non celui de Mondovino, film de 2003 qui montrait le vin, symbole de la civilisation occidentale de plus en plus soumis à la loi de l'argent et de la notoriété, mais celui des petits producteurs, des entreprises familiales, des passionnés et des esthètes. Ce nouveau roman, édité chez Flammarion, s'intitule « Des heures heureuses ». Et j'ai le plaisir d'accueillir son auteur, Christian Autier. Christian Autier, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est un roman citadin, mais vous nous avez habitués à ce genre de roman. Il y a des évasions, bien sûr, dans les vignobles, mais c'est quand même souvent vous aimez décrire la ville.
Oui. Tous mes romans, à l'exception d'un, six romans sur sept se déroulent à Toulouse, même si la ville n'est jamais nommée,
oui.
Mais les gens peuvent la reconnaître, enfin les gens qui la connaissent ou les Toulousains. Et celui-ci ne déroge pas à la règle, même si, évidemment, comme vous l'avez souligné, il y a quand même pas mal d'échappées à travers la France, que ce soit en Bourgogne, dans le Var et ailleurs, oui. Sur la route des vins et sur la route des rencontres,
oui,
que ce milieu peut provoquer.
En France, nous sommes gâtés.
Et puis aussi des quelques séjours à l'étranger aussi, mais ça qui sont au-delà du monde du vin.
Ah oui, effectivement, des rapides incursions qui m'ont fait rire d'ailleurs, parce que pas au-delà d'un certain kilométrage.
Hein. Oh, il y a quand même Istanbul, Lisbonne,
oui.
Berlin.
Oui, on reste en Europe quand même.
Ah, Istanbul n'est pas en Europe officiellement. Enfin, il y a des querelles, de longues querelles là-dessus.
Mais... Oui. Oui, mais alors que dans la ville, qu'est-ce que vous aimez justement?
Oh, ben c'est tout simple, l'énergie, la vie qu'il y a dans les villes. Et puis dans une ville de province, moi donc je suis provincial, je vis à Toulouse depuis quasiment tout le temps. Et j'aime ce côté village, c'est très banal pour les gens qui vivent ici, mais c'est, en même temps c'est frappant. Moi j'ai consacré dans ce livre des passages, certains lecteurs peut-être reconnaîtront, à des silhouettes familières, des gens qu'on croise dans les rues. Comment peut-on les appeler, on va dire les originaux, pour être indulgent ou gentil.
Hors normes.
Voilà, des gens qui font partie du paysage. Donc c'est pas
l'anonymat finalement qui vous plaît là-dedans.
Ah non, moi c'est pas l'anonymat, au contraire, l'anonymat m'effraie un peu, c'est l'anonymat des villes. En même temps, moi, ça peut être un refuge, enfin on aime ne pas rencontrer des gens au coin de chaque rue, mais moi ce qui me touche et ce qui me plaît dans les villes ou dans les quartiers, c'est justement, oui, ce que je disais, ce côté village, communauté, et puis même des gens. Moi ce qui m'a toujours frappé, il y a beaucoup de gens que l'on croise dans les rues, qu'on ne connaît pas, qui on n'a jamais adressé la parole, mais moi en l'occurrence, je crois qu'il y a plein de gens qui partagent ce sentiment, leur présence est rassurante, enfin elle devient familière, ce sont des gens qui font partie de notre univers, du moins un univers visuel, parfois quotidien ou hebdomadaire, et c'est amusant de voir comment appeler ces gens-là, ce ne sont pas des amis, ce ne sont pas des relations,
c'est pas la famille, mais
ils
en
font
même
partie
temps,
du décor,
font... oui, voilà.
Du décor d'une ville, oui. Et ça c'est amusant.
Ben dans le fond, c'est le groupe familial qui est, le groupe social qui est important aussi. Et Thomas, qui est le personnage principal, à peine sorti des études universitaires, accepte donc d'être assistant, bras droit, d'un personnage, justement, hors norme, Robert Berthet. Il est fantastique, il est tonitruant, fantasque, pas fantastique, parce qu'honnêtement, il m'a énervé au départ.
C'est fait pour ça.
Ah bon, c'est étudié pour, d'accord. Alors, il est courtier ou négociant en vin naturel, je ne sais pas trop la différence.
Oui, on dira agent en vin.
Voilà. Et on le suit donc. Il suit Robert Berthet, ce Thomas, dans de multiples virées professionnelles ou pas. Alors Thomas... Je lis par exemple, bien que solitaire, Thomas avait besoin de ses silhouettes et de ses visages d'inconnus devenus familiers au fil des ans. C'est vous qui venez de le dire ? C'est un peu de vous quand même, hein ?
Oui, bien sûr, on projette toujours un peu de soi dans les personnages, et sans doute au-delà des héros, dans tous les personnages, il y a un peu de nous.
Oui, voilà, on se projette, c'est vrai. C'est un personnage plutôt discret, souvent nostalgique. On en parlera aussi de cette nostalgie... Disons qu'il a un regard déjà assez mature, je dirais.
Oui.
Vous êtes d'accord?
Assez lucide.
Bon. assez lucide, voilà. En fait, ce n'est pas la première fois qu'on découvre dans vos écrits votre goût pour les bons vins, aussi les bons, pour les bons restaurants. Alors, je vais dire à nos auditeurs que vous écrivez également, vous êtes rédacteur en chef de l'opinion indépendante, que vous écrivez ici dans un site qui s'appelle Culture 31, que j'engage d'ailleurs tous nos auditeurs à aller voir, parce qu'il y a des chroniques sur beaucoup de choses qui se passent à Toulouse. Et donc, les bons vins, les bons restaurants, vous en parlez là aussi.
Oui, c'était l'occasion d'évoquer ce goût, voire cette passion. Ce que j'ai choisi d'ancrer ce roman dans le monde du vin, et en particulier ce qu'on appelle le vin naturel, c'est-à-dire du vin bio encore un peu plus poussé, qui est devenu à la mode depuis ces dernières années. On en trouve maintenant, c'est des vins qui étaient très décriés au départ et maintenant qui sont sur les tables de tous les restaurants étoilés, tous les restaurants à la mode, et, y compris parfois des petits bistrots. Et donc ça m'intéressait, c'est un milieu que je côtoie en tant que, j'allais dire, consommateur et amateur depuis une vingtaine d'années. Donc ça m'intéressait de le mettre en scène sous forme romanesque. À ma connaissance, il y a eu des BD, il y a eu des films, il y a eu beaucoup de choses, des mangas, tout ce qu'on veut sur ce qui se passe dans ce monde du vin naturel, mais jamais
pas de roman
à ma connaissance, du moins pas en France. Donc je trouvais ça amusant, et puis comme tout milieu, ça permet d'observer les mutations à l'œuvre dans la société, comme ça aurait pu être le football, la politique, la presse. Il a ce milieu à ses conformismes, ses modes, ses snobismes, donc c'est toujours amusant, et c'est propice au romanesque et à la comédie, puisque là je voulais faire un livre plutôt picaresque
presque rabelaisien.
Oui, qui force parfois sur le côté farce.
Voilà. Alors, c'est vrai que vous décrivez tout un monde, un univers à part, comme souvent dans beaucoup de métiers, mais celui-là qui rassemble les vignerons, bien sûr, les courtiers, les sommeliers, des œnologues également, des restaurateurs, bien sûr, des maîtres de chai. Vous connaissez bien ce milieu quand même.
Oui, maintenant je commence à connaître les différentes facettes. Oui.
Et alors, je me disais, c'est amusant parce que finalement, chaque corps de métier doit avoir ses spécificités et ses exigences. Et finalement, on les voit se retrouver, s'épauler, se disputer, se fâcher et se battre même. C'est ainsi qu'ils sont, effectivement.
Bon, ça peut arriver comme dans tous les, dans toute relation sociale ou professionnelle. Mais en même temps,
c'est-à-dire qu'ils boivent pas tellement d'eau pure. Hein.
Non, voilà, l'avantage, j'allais dire, de ce milieu, que ce soit de la restauration ou le monde du vin, c'est que voilà. A priori, ce sont plutôt majoritairement des bons, ce qu'on va appeler des bons vivants, des gens qui aiment bien donc manger et boire.
Et parfois donc, dans l'excès même.
Voilà, et de fait, ça peut entraîner des situations cocasses ou amusantes. Et là, c'était un décor propice à ce que je voulais raconter, puisque le roman est en fait un peu une forme de roman picaresque, de roman d'initiation, puisque comme vous le disiez, c'est un jeune homme qui va être initié, éduqué par quelqu'un qui pourrait être son père, qui a 50 ans ou 51 ans. Et donc, c'est Don Quichotte et Sancho Panza. Il y a un côté un peu picaresque et amusant dans leurs aventures.
Alors, tout à fait. Alors, vous décrivez un monde facilement à la marge, quand même, à certains moments. Je voulais savoir, dans ce milieu, en quoi il vous intéresse ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Parce que moi, je vois plusieurs points là-dedans. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce monde-là ?
D'abord, j'allais dire la matière première, si je puis dire, c'est-à-dire le vin. Moi, je suis un amateur de vin.
Mais vous pouvez boire le vin sans rencontrer.
Oh, c'est comme tout, quand on s'intéresse vraiment, si on s'intéresse à la littérature, on va peut-être y aller écouter des écrivains dans les librairies. Si on s'intéresse au cinéma, on va aller aux avant-premières, on va lire les livres sur le cinéma, etc. Donc, je crois que quand on s'intéresse vraiment au vin, on a envie de rencontrer parfois les vignerons, d'aller dans les dégustations. Donc moi, c'est ça essentiellement qui m'intéresse, ce rapport très, j'allais dire, physique ou charnel au jus de raisin fermenté. Et puis donc le vin, est-ce qu'il peut provoquer, quand on n'a pas une consommation uniquement scientifique ou professionnelle, c'est-à-dire l'ivresse, le goût de la dérive, le goût de la fête et des libertés prises avec le quotidien.
Voilà, c'est le mode de vie.
C'est un roman aussi qui comporte des clins d'œil à la fois dans le profil des personnages, c'est-à-dire un aîné et un jeune homme avec un singe en hiver d'Antoine Blondin qui comporte plusieurs clins d'œil à l'œuvre d'Antoine Blondin.
Avec Jean Gabin.
Qui, comme on le sait, était quelqu'un, bon, lui, qui a poussé trop loin le goût, d'ailleurs plus pour l'alcool en général que pour le vin, puisqu'il consommait, je crois, beaucoup plus de Ricard.
Même quand il suivait le Tour de France ?
Oui, bon, je crois qu'à partir de 1962, il n'a plus tellement été à jeun jusqu'à la fin de sa vie, en 1991. Oui. Mais donc voilà, il y a ce côté, malgré tout, qui était attaché à Blondin et à bien d'autres, mais ce goût, comme je le disais, de la dérive, de l'école buissonnière et des embardés.
Oui, il y a une culture finalement quand même, hein, c'est ça, on peut dire.
Oui, bien sûr, je crois que c'est, si on va être un peu sérieux, je crois que c'est Guy Debord dans ses livres qui théorisait la dérive dans la ville. Et Guy Debord qui était un grand amateur de vin et en particulier de vin naturel, mais à la mode c'était pas du tout, enfin c'était très peu connu et très marginal à l'époque. Mais oui, bien sûr, il y a une tradition, enfin on peut parler de Villon, enfin dans la littérature française, entre l'alcool, le vin et les écrivains et la littérature, où il y a une longue tradition.
Et même dans la chanson. Rabelais, même dans la chanson. Je suis allée m'enseigner. Il y a un langage également pour les initiés, parce que je dois vous dire que j'étais un peu épatée. Là, je lis, il parlait de fermentation malolactique, de volatile et de pH à un caviste parisien barbu et tatoué qui adoptait des mines circonspectes, ponctuées de mouets cool, tout en avalant l'engoulument son bœuf bourguignon. Non, c'est juste un extrait parce qu'il y en a beaucoup d'autres et peut-être
suis amusé justement à brocarder un peu le vocabulaire. Alors, dans le milieu du vin naturel, c'est un vocabulaire parfois différent que dans le vin traditionnel, puisque effectivement, par exemple, le terme de volatile, il y a des termes comme ça qui sont plus spécifiques, mais ce qui est amusant, oui, c'est de, par exemple, à un moment, il y a un échange entre des personnages sur l'expression que j'ai entendue et qu'on entend souvent, c'est le ventre de lièvre à propos du parfum ou de l'odeur de ce vin. Et un personnage demande à l'autre, mais est-ce que tu as déjà senti le ventre d'un lièvre? Il répond, non, mais j'imagine, mais... Voilà, il y a pierre à fusil, des arômes ou des choses assez improbables.
Et parfois, des odeurs nauséabondes, quasiment.
Oui, 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 cul de poule, si je puis dire, peux m'autoriser. Mais donc, c'est amusant de se moquer un peu parfois de ce qui tourne à un snobisme. Où, moi, j'en parlais l'autre jour avec un ami grand amateur de vin qui me disait effectivement, qui a léché une pierre à fusil chez les chasseurs, c'est tout de même assez rare.
Mais en même temps, c'est un moyen de reconnaître, d'avoir justement des repères, et puis finalement dans toute science, si je peux dire, il y a un vocabulaire. Hein, voilà.
Oui, un vocabulaire et même un jargon un peu pédant qui sert à se donner une pseudo-science.
Vous savez, j'avais l'intention de vous demander de nous parler un tout petit peu du vin naturel, parce que je dois vous dire que je suis allée m'enseigner, mais c'est vous qui allez le faire. Puisque vous en parlez, que nos auditeurs ne restent pas dans l'expectative, parce qu'ils sont peut-être comme moi, je suis allée voir, c'est pas un vin bio, c'est pas un vin biodynamique, non, c'est un vin naturel dont vous parlez et dont vos personnages centraux sont à la recherche, j'ai l'impression, hein, d'après ce que j'ai compris.
Oui,
c'est
sûr.
Ça qu'ils prônent. Vous-même, vous êtes pour le vin naturel, mais depuis longtemps.
Consommateur, oui.
Et consommateur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a, ce vin naturel ?
Pour être simple, on va dire que c'est un vin bio beaucoup plus exigeant que le vin bio traditionnel. C'est-à-dire, et pour rester compréhensible, c'est le vin fait le plus naturellement possible. C'est-à-dire avec pas d'entrants dans les vignes, donc pas de pesticides, pas de produits chimiques dans les vignes. Et ensuite, pas d'additifs, pas de produits chimiques dans le chai. C'est-à-dire quand on fait le raisin.
Mais il y a des
avec très peu, de soufre ou pas de soufre du tout pour les vignerons qui réussissent à s'en passer. Pas de ce qu'on appelle les levures exogènes, c'est-à-dire des levures qu'on peut rajouter dans le vin pour le parfumer, pour lui redonner du goût, de la couleur. C'est des vins qui ne sont pas filtrés. Donc là, c'est tout à fait ce qu'on peut comprendre. On passe le vin pour le débarrasser, le rendre plus limpide, débarrasser des impuretés, etc. Donc c'est des vins avec le moins d'interventions extérieures possibles, mais qui nécessitent, pour être bons, des raisins d'excellente qualité et des vignerons extrêmement attentifs et méticuleux.
D'où un prix peut-être un peu plus élevé, non ?
Un peu plus, oui, mais bon, enfin, il y a de très mauvais vins industriels qui coûtent très cher aussi. Donc,
Est-ce qu'ils se conservent bien ?
Oh bah oui, par exemple, après, il y a la question de la biodynamie qui est encore différente, mais par exemple les vins naturels sont quasiment tous en biodynamie, mais bon, donc on pourrait dire la Romanée Conti, par exemple, est un vin qui est en biodynamie depuis 20 ans, et je crois que les vins de la Romanée Conti se conservent très bien.
Oui, mais je dois vous dire que je suis allée voir les tarifs. Ça dépasse amplement nos possibilités. Voilà, alors donc... On va parler également de tous ces personnages qui gravitent autour de Thomas et de Berthet. Alors, c'est vrai que ce sont des personnages, vous dites picaresques, moi j'avais dit rabelaisiens, dans le fond ça revient, haut en couleur, buvant, se querellant, avec un langage plutôt vert. Et quand je dis vert, je suis peut-être en deçà de la vérité. Le coup de poing prompt. Des blagues de potage, je dois dire qu'il y en a de très mauvais goût, mais qui m'ont quand même fait rire. Et puis, quand même, souvent, ils sont un peu bofs aussi par certains côtés. Hein.
Oui, bien sûr, notamment un de mes personnages principaux, donc Robert Berthet, qui est un... Moi, oui. Je me suis beaucoup inspiré, en fait, pour ce personnage, d'un film que j'adore, qui s'appelle Le Fanfaron, avec Vittorio Gassman et Jean-Louis Trintignant, où Vittorio Gassman campe un type assez imbuvable. D'ailleurs, c'est ainsi que mon personnage est qualifié au début du roman, où le narrateur relève que c'est particulièrement savoureux, puisque c'est quelqu'un dont le métier consiste à boire, d'être aussi imbuvable que ça dans la vie quotidienne. Mais je me suis beaucoup inspiré de Vittorio Gassman, du personnage joué par Vittorio Gassman, qui s'appelle Bruno Tortona dans le film, parce que c'est un personnage effectivement horripilant au premier abord, et peu à peu qui devient attachant, y compris par ses défauts, c'est-à-dire sa mauvaise éducation, son côté sans gêne, son égoïsme,
oui,
son narcissisme, oui. Son côté effectivement, on pourrait dire grande gueule. Et donc voilà, moi ça m'a amusé de créer non pas une décalque du personnage de Gassman, mais de cerner ce genre de typologie, enfin de caractère, c'est-à-dire quelqu'un qu'on ne va pas aimer au premier abord et qu'on va apprendre à découvrir
petit,
et dont on va voir finalement les failles, les blessures, et que ce côté matamor cache aussi des côtés plus attachants. Mmh.
À un moment donné, de Saint-Brieuc à Rennes, puis de Rennes à Paris, ils prirent le train qui partent. Le bar, bon, c'était pas en cette période, donc. Le bar était leur quartier général, Saint-Bière et Saint-Cricard, commandés maréchaux toutes les demi-heures. La petite troupe ne passait pas inaperçue. À eux cinq, on approchait des 200 ans. Âge mental, 10 ans. État d'esprit, 1000 ans. Voilà pour décrire.
Ah ouais, mais ça résume assez bien. Là, c'est une petite troupe d'amis donc, qui sont partis dans une dérive en Bretagne, dans des restaurants et effectivement, je décris en fait des grands enfants. Ils ont la quarantaine ou certains 50 ans et ce sont de grands enfants qui veulent pas grandir ou qui veulent se donner l'illusion que leur jeunesse est encore là, d'où leur goût voilà, pour ces échappées, pour ces week-ends prolongés, pour ces...
Oui, voilà. J'ai connu se retrouver, c'est un monde quand même, je dirais, assez viril.
Oui, c'est un monde masculin, c'est des dérives assez masculines, c'est l'amitié au sens masculin du terme. C'est pour ça aussi que j'avais envie, que j'ai eu envie de mettre un personnage en contrepoint à la fois de cet univers et de ses sentiments d'amitié masculine, potache, etc. Et qu'il y a un personnage féminin qui va faire découvrir au jeune héros Thomas d'autres choses que ces gamineries qui pour lui encore ont un sens. Il a 25-26 ans et c'est un garçon qui, que j'explique
ensuite,
qui a été solitaire, qui a pas vraiment eu de jeunesse classique d'étudiant. Il a été très sage, très raisonnable et à 25-26 ans il se rattrape un peu avec des gens plus âgés que lui.
Mais il va finir par se lasser lui-même.
Oui, bien sûr, parce que plus rapidement que les autres, il perçoit peut-être un peu le côté vain que peut avoir la répétition de la fête, de l'ivresse, des gueules de bois. Un ami, il y a des soirées émouvantes, mais des petits matins difficiles. Et quand les petits matins difficiles se répètent...
On dit, alors moi, quelqu'un m'a dit que vos personnages, on pouvait en identifier certains. Honnêtement, je vais vous dire, soyez à l'aise, je n'en ai identifié aucun. Alors je me suis dit, mais le vigneron Roland en jupe existe-t-il? Alors il y a un autre complètement illuminé, il y a un prof de droit, un don Juan raté. Bon, ils existent, cela un peu.
Certains,
peu,
ils ont été nommés dans les articles, donc, et puis c'est pas un secret, donc il y en a que je peux citer. Il y a un vigneron dont je me suis inspiré, qui est un ami, qui s'appelle Jean-Christophe Comor, qui est assez célèbre, qui était dans la politique avant de faire du vin, qui a abandonné la politique un soir d'avril 2002 pour se tourner vers le monde du vin. Il y a le chef assez célèbre, Yves Candebordes, qui apparaît sous le patronyme d'Alain Laborde. Il y a mon ami écrivain Sébastien Lapac, qui est assez reconnaissable par ses...
C'est celui qui part en colère, non, à un moment donné.
C'est celui qui a une théorie sur les cartes postales, qui boit beaucoup, qui écrit... Voilà, Donc, et par ailleurs, je me suis amusé, mais là, ils n'ont rien à voir avec leur modèle, si je puis dire, à donner à des personnages que je fais souvent des noms d'écrivains, comme Molin, Maréchaux, Berthet ou Lacoche. Ça, c'est des clins d'œil pour les Happy Fiouk.
Voilà. Oui, il y a également un dénommé Léon, l'ami de Jean-Kiss Christophe. J'ai trouvé ça, son personnage assez intéressant, plutôt intéressant même. Vous accepteriez de lire son
portrait ?
Oui, bien sûr. Alors, je vous passe à la page 124. Il y a une...
Léon, l'ami de Jean-Christophe, dissertait et parlait fort. Il avait le verbe aussi lyrique que truculent. Le qualificatif de réactionnaire ne lui convenait pas vraiment. Léon était anarchiste, monarchiste, mérovingien, collectiviste, catholique, païen, ludite, cosaque, à tour de rôle ou bien ensemble. Cela chassait la banalité. Il écrivait dans des magazines de santé, pour la télévision, des textes de bande-annonce d'émissions qu'il ne regardait pas. Tous des cons. L'autre jour, j'ai fait allusion à la chanson de Roland. Le rédacteur en chef a demandé qui était ce chanteur. Les anecdotes de ses avanies avec le monde moderne ravissaient l'assistance. Internet le dégoûtait, avoir un téléphone portable lui était une blessure ouverte. Comment faisait-il pour boire autant et presque tout le temps ? Il buvait dans des verres, pas forcément le sien, à la bouteille, au magnum. Par moments, il s'effondrait, dormait quelques minutes et reprenait en se réveillant la conversation quasiment au mot près où il l'avait abandonnée. Comme disait saint Augustin, le problème avec Debord, quand j'ai un coup de mou, lire une page de Bernanos ou de Blois, cela me remet à cheval, s'exclama-t-il avant de se ruer vers l'ordinateur pour faire écouter via un clip sur YouTube une chanson d'un groupe français étrange entre le punk et le rap, qui en appelait sur un ton rageur aux belles âmes, aux belles dames, aux utopistes, aux éveillés, aux cérébrés. Déguisés en chevaliers médiévaux, les chanteurs invoquaient encore le royaume de l'enfance. La chanson mettait Léon en transe, ce qui n'empêchait pas de se livrer à une exégèse des paroles dans lesquelles il percevait des accents welbeckiens, bernanosiens, chrétiens.
Un personnage, j'avoue que j'ai beaucoup ri en lisant plusieurs de ces passages d'ailleurs où vous décrivez des personnages effectivement. Et ben pour l'heure, on va faire quand même une pause musicale. J'ai essayé de trouver un rapport avec le vin, avec la boisson, tout simplement.
Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble. Demain les vendanges de l'amour. Car la vie toujours rassemble, oui la vie toujours rassemble. Malgré tout ce qui se quitte un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage. Un beau matin pour sécher nos pleurs. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne. Enfin pour le pire et le meilleur. Referons ensemble, nous les referons ensemble. Demain les vendanges de l'amour. Car je sais que tu ressembles, oui je sais que tu ressembles comme deux gouttes d'eau à l'amour. Ma comparaison peut-être sur tes lèvres fera naître un sourire en guise de discours. Mais pourtant j'en suis certaine, ce soir autant que je t'aime, oui ce soir tu ressembles à l'amour. Ensemble, nous les referons ensemble. Demain les vendanges de l'amour. Car la vie toujours rassemble. Oui, la vie toujours rassemble. Malgré tout ce qui se quitte un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage. Un beau matin pour sécher nos pleurs. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne. Enfin pour le pire et le meilleur. La 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 la.
Parole d'auteur Monique Fauché.
Évidemment, vous avez reconnu Marie Laforêt chantant les vendanges de l'amour. Et nous retrouvons Christian Autier qui nous parle de vendanges et pas, en fait, surtout le produit final de vin dans Des heures heureuses, son nouveau roman paru chez Flammarion. Alors, nous parlions de personnages truculents et parlez-nous de Berthier. Berthier. C'est lui, l'employeur de Thomas.
Donc c'est un agent en vin, c'est quelqu'un qui a 50 ans, qui a exercé beaucoup de métiers très différents, dans beaucoup de domaines, dans la radio, dans la vente, etc. Et une dizaine d'années auparavant, il s'est reconverti dans ce métier d'agent en vin, et donc plus spécifiquement de vin naturel. Et c'est quelqu'un qui est très, qui a une haute idée de lui-même, qui a...
on l'appelle
et qui est assez sans gêne, assez brutal dans ses manières, et qui va décider, sous la pression de quelques amis, et d'embaucher un bras droit, comme on dit, enfin d'avoir un employé à ses services pour se décharger des tâches les plus ingrates de son métier, administratif, livraison, etc.
On va voir que les relations entre eux vont... Vous dites que ça devient des relations effectivement quasiment filiales, enfin, ou paternelles, enfin suivant.
Oui, y compris avec la notion de conflit et de disputes, oui, que peuvent avoir les relations parfois père-fils.
Absolument, donc, parce que Thomas renacle parfois à raison, moi je lui donne raison. Cet homme a quand même une morale très douteuse. Il a un compte en Suisse, il a des plaques minéralogiques interchangeables, il emploie Thomas au noir.
Oui, c'est un libre entrepreneur de son époque. Il est assez libéral dans ses pratiques, si on peut dire. C'est le poulailler, enfin c'est le renard libre dans le poulailler libre. Et donc il n'est pas tellement surprenant qu'il prenne quelques libertés. Il s'autorise avec liberté. Il aime pas les règlements. Il aime pas les amendes. Il aime pas se garer là où il faut se garer. Donc c'est un personnage qui s'adapte et qui essaie de plier le monde à ses désirs, oui, et à sa réalité, plutôt que se plier à la réalité, au monde qui l'entoure.
Oui, ça on imagine très bien.
Et ça peut avoir des côtés assez choquants, mais aussi des côtés plutôt attachants, c'est-à-dire qu'il refuse les conventions et il n'a aucune pudeur à les affirmer. Quoi. Mmh. Enfin, affirmer, c'est...
Oui, en même temps, à un moment donné, j'ai ri, peut-être que l'ai-je noté, c'est que il a affaire à quelqu'un qui a beaucoup d'argent, alors je ne sais pas si c'est un footballeur, qui a une cave très importante qu'il a payée très cher, et puis il se rend compte qu'en fait, il a classé toutes ses bouteilles en fonction du prix. Et à un moment donné, je ne sais pas si c'est Thomas ou un autre qui dit enfin, on va lui en vendre là, c'est une bonne affaire. Jamais de la vie, j'ai mon honneur. Hein. Il dit quelque chose.
Oui, malgré tout, parfois il a des réactions un peu surprenantes. Enfin, c'est ça qui m'intéressait, c'est pas peindre un personnage avec des contrats, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime l'argent, mais qui jusqu'à un certain point il n'est pas prêt à tout pour vendre du vin. Il a une éthique malgré tout. Et là, quand il voit qu'il est tombé sur un naïf absolu, sur un pauvre idiot à qui on a fait croire à qui on a vendu des fausses étiquettes, des faux vins, il veut pas gâcher entre guillemets, veut pas vendre des bons vins à quelqu'un qui n'a aucune connaissance et qui veut acheter seulement des étiquettes et de la surface sociale, enfin ce que le vieux Marx appelait la différence entre la valeur d'échange et la valeur d'usage.
Voilà. Thomas très vite comprend quand même comment fonctionne Berthier, son employeur, tout en renaclant évidemment, mais il voit aussi ce côté pudique qu'il a. Il ne parle pas de sa vie privée, de sa vie intime. Et en même temps, même si parfois il est révolté, puis c'est vrai que Berthier lui a fait des coups pendables, hein, on n'en parlera pas là, mais dans le livre, on rit, mais je comprends que Thomas rit très jeune. Et à un moment donné, Thomas dit « En dépit de ses humeurs et de ses caprices, ce quinquagénaire bancal et attachant lui avait appris le vin, fait rencontrer des êtres hors du commun comme Lacoche, Laborde, Tillois, Molin, Bénard et d'autres, ce n'était pas rien ». Il lui sait gré d'être entré dans ce cénacle, lui qui était un solitaire en plus.
Oui, comme je disais, c'est un roman d'apprentissage et d'initiation au vin, mais aussi, surtout, et ce qui est le plus important, à l'amitié, à une certaine forme de vie un peu débridée. Thomas, en fait, il jette sa gourme, il traverse son adolescence à l'âge de 25-26 ans. Et c'est quelque chose, sans doute, qui aurait manqué s'il n'avait pas connu ces soirées un peu festives, un peu bizarres, ces envies de grosses bêtises, ces embardés où on prend la voiture et on ne sait pas quel jour finira la...
Ils sont restés des gamins.
Oui, parce qu'ils veulent rester des enfants, ils ne veulent pas avoir de règles. C'est pour ça aussi que Thomas, qui est un jeune homme dilettante, il n'a pas envie tout de suite de rentrer dans le monde du travail. Il se dit que pour un premier emploi, ce mode de vie, il n'est pas dans un bureau, il n'a pas d'horaire. Ce mode de vie lui convient bien. Par ailleurs, tout en satisfaisant lui aussi sa curiosité qu'il éprouve à l'égard du vin.
Tout ce petit monde-là soutient les petits producteurs.
Oui, bien sûr, puisque les vignerons qui font du vin naturel ou du vin bio ou du vin en biodynamie sont en général ont des petits domaines. Très souvent, c'est des gens qui travaillent seuls ou avec très peu d'employés. Ils n'ont pas les moyens d'avoir beaucoup d'employés, donc sont des artisans. Ils sont obligés parfois de démarcher leur vin, d'aller sur des salons, d'aller voir les cavistes dans les villes. Donc ce sont des vignerons artisans, comme j'aime bien les appeler. Et c'est ça qui les rend aussi intéressant. On n'est pas dans l'industrialisation, on est vraiment dans un rapport d'ailleurs qui ressemble assez à celui d'écrire. Hein. Moi, je suis très frappé. Pour faire du vin, ça prend à peu près un an. Donc, chaque millésime.
Pour écrire un roman, oui.
Un roman, on n'est jamais sûr, on est soumis c'est quelque chose de très fragile, on ne sait jamais si ça va être, quel va être le résultat. Donc, il y a un côté artisanal qui est très, très impressionnant et qui est très, très intéressant dans le vin.
Oui, et puis il y a le caractère unique.
Oui.
Et c'est dans le fond, en vous lisant, je me disais, c'est quand même tout à fait une façon de vivre, un art de vivre, en fait, hein, que l'on ne retrouve pas forcément ailleurs.
Oui, il y a le goût, même si là aussi je m'amuse parfois à brocarder certaines modes qui touchent à la gastronomie, les légumes oubliés, les restaurants qui sont un peu pompeux. Après, c'est un livre qui est dédié effectivement à une certaine façon de vivre, qui est très française, hein, c'est-à-dire les plaisirs de la table, du bien manger.
Et je me demande si ce ne sont pas les derniers mousquetaires, justement.
Bien sûr, il y a un côté, évidemment.
Enfin, je dis ça, mais...
Alexandre Dumas a très bien illustré cette dimension dans Les Trois Mousquetaires. Hein. Il y a quelque chose. On n'est pas, évidemment, Dieu merci, la France n'a pas l'apanage de ces goûts-là, mais chez nous, effectivement, le bien manger, le bien boire et la cérémonie de la table est quelque chose qui fait partie de notre culture et de notre histoire, et c'est très prégnant, même si, bon, évidemment, il y a aussi une part de mythologie et maintenant peut-être de fiction là-dessus, puisque moi, c'est ça qui m'intéressait dans le côté un peu sociologique du roman, c'est interroger. Voilà, quelle est en fait depuis 10 ans tout le monde on ne parle que de manger, les émissions de télé-réalité,
énormément
d'émissions dans les journaux, on ne parle que de ça, et en même temps bon, la majorité des gens continuent de manger des surgelés, des fast-food et des pizzas.
Donc je suis un peu étonnée, Christian Autier, je vous arrête parce que je trouve que dans chez les 40, 45, 50 ans, je trouve qu'il y a un retour à la recherche.
Oui, bien sûr. Oui. Non, ça n'exclut pas, y compris même chez les plus jeunes. Moi, je vois beaucoup de gens de 25 ans, 20 ans, qui sont très attentifs.
Oui.
Mais ça concerne encore, j'allais dire, qu'une minorité.
Ils peuvent manger des McDo, mais en même temps, ils aiment bien les bonnes choses.
Quand les supermarchés seront déserts, on s'en rendra compte de manière assez spectaculaire. Hélas, y compris aussi pour des questions parfois de prix. Dans les campagnes, il est assez facile de se nourrir très correctement, enfin de manger très bien, des produits très sains et très bons à bas prix. En ville, c'est peut-être plus compliqué, et ne parlons même pas de la viande ou des poissons. Mais malgré tout, voilà, il y a un décalage entre la réalité de nos assiettes et puis l'espèce de mythologie qu'il y a autour du bien manger et du bien boire dans notre culture.
Oui, alors moi, je ne serais pas tellement pessimiste parce que j'ai été étonnée que même aux États-Unis, ils font maintenant davantage attention à ce qu'ils mangent. Bon, alors je dis bien une certaine catégorie de la population.
Oui, hein. Non, mais c'est un mouvement mondial, effectivement.
Oui.
Le fait, d'ailleurs, il y a aussi une autre motivation. Il y a une motivation sanitaire, j'allais dire.
De la santé.
Hygiéniste. Là, chez mes personnages, c'est plus une motivation épicurienne et gourmande qui les pousse au bien manger.
Culturel, même.
Et au bien boire, sans que ce n'est... Et ça n'a pas toujours chez eux des conséquences sanitaires ou hygiéniques tout à fait remarquables.
Oui, c'est un fait. Oui, alors c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont dignes. Vous parliez du film de Verneuil. Effectivement, il y a des scènes qui sont truculentes, où on rit. Et puis, il y a, je me disais, mais que trouve ce garçon ? Alors, on en a un peu parlé, Thomas. Et je pense que quand même, il y a des moments de bien-être. Il y a une chaleur au milieu de ces hommes qui se connaissent bien, qui ne plastronnent pas forcément. Parce que même ceux qui plastronnent sont remis à leur place, chacun. Bon, et il y a des moments de bien-être. Par exemple... bien-être aviné, hein, quand même. Alors bon, je ne vais pas faire l'apologie non plus. Mais c'est très drôle parce qu'à un moment donné, ils partent en tracteur sur une route sinueuse à une vitesse qui surprit Berthet, etc. Et ils arrivent dans une colline, au pied d'une colline gardée d'une forêt. Et puis, ils vont monter à pied au sommet pour accéder à Notre-Dame d'Inspiration, chapelle datant du XIIIe siècle, entourée de vestiges d'un ancien château détruit au début du XVIIIe siècle et d'un amphithéâtre édifié à la même époque. 20 minutes firent nécessaires pour accéder au site sur un sentier aussi étroit qu'au rocailleux et d'une inclinaison que Thomas estima à 30 degrés. Malgré la fraîcheur qui était tombée, c'est en chemise et en nage qu'il acheva l'ascension dans l'obscurité à peine contrariée par la luminosité des écrans des téléphones transformés en lampes de fortune. Les compagnons de Bénard semblaient rôder à l'exercice puisqu'ils parvinrent en avance au sommet, bien que chargés de caisses de vin, de cartons et de sacs contenant verre et victuailles. Détrompez-vous, chers auditeurs, ce n'était pas un pèlerinage. Voilà qu'ils vont donc festoyer et on discutait à la fin, on discutait à deux, trois ou plus, des danses et des chansons, on s'invitait. Thomas, comme tout le monde, était gagné par une douce ivresse, avait le sentiment de connaître ces gens depuis longtemps, en compagnie de visages souriants, des têtes bien faites et des mains qui ne rechignaient pas à l'effort. Il était en communion.
Oui, non, il y a un côté pèlerinage.
C'est mystique, hein.
Au-delà, bien sûr, bah, le vin a une dimension oui. Spirituelle évidente et religieuse aussi. Mais là, pour le coup, c'est une scène que j'ai j'ai vécue. C'était là une fête de fin des vendanges chez un vigneron. Et tous les ans, ils font cette procession, ce qu'ils appellent donc la chapelle. Et effectivement, moi, j'avais été frappé, il y a quelques années, de découvrir chez les jeunes vendangeurs qu'il avait aidés durant tout l'été, des jeunes gens totalement étonnants, qui venaient de tous les milieux. Alors, certains avaient pris des vacances dans leur métier pour faire les vendanges. D'autres étaient venus. Alors, ils étaient tous comme ce vigneron, comme je disais, ils n'ont pas les moyens d'avoir les employés. Ils sont logés, nourris, et ils travaillent, ils font les vendanges, j'allais dire, gracieusement. Et il y avait des serveuses de restaurants parisiens branchés, il y avait donc des gens qui travaillaient, il y avait une normalienne, il y avait des gens de profils extrêmement variés.
Un brassage
Il y avait un jeune vagabond qui était sur les routes et qui est passé par là. Et tous ces gens avaient la tête bien faite et ils étaient heureux. Et ça m'avait particulièrement frappé, je voulais leur rendre un hommage indirect. Ouais.
Alors, vous-même, vous avez fait les vendanges ?
Non, moi, je ne fais que les fêtes.
Ah, voilà.
Fêtes de fin de vendange.
Voilà. Alors, j'ai parlé de roman, parce que c'est un roman. Et il y a même, et on va y venir, mais il y a même une rencontre, une histoire d'amour. Mais ce n'est pas qu'un roman. On a l'impression aussi que vous avez envie d'éduquer chez le lecteur le palais. Bon, parce qu'il n'y a pas que le vocabulaire, il y a la description, enfin des choses. Vous n'avez jamais écrit de livre spécifique ?
Non, pas sur le vin ou sur la nourriture. C'est quelque chose qui apparaît effectivement dans plusieurs de mes livres, notamment dans mon essai de chez nous. Mais plus qu'éduquer, si le livre dans ce domaine-là, une petite fonction, ce serait plutôt d'éveiller la curiosité et peut-être effectivement de donner à certains lecteurs qui ne connaissent pas ces vins-là l'envie de les goûter. Je pense que je les rends globalement séduisants. Enfin, on a envie de... Ça fouette un peu l'imagination, puisque moi, ce qui est frappant, il m'a toujours fasciné quand je rencontrais des gens qui goûtaient pour la première fois des vins naturels, parce qu'ils disent souvent « Oh, c'est curieux, ça, on dirait du fruit, on dirait du raisin », parce qu'on a tellement oublié sous les coups des additifs et des divers artifices que le vin est du jus de raisin fermenté, et donc qu'il soit fruité, il faudrait qu'il soit fruité. Parfois, ça frappe effectivement, parce qu'on a oublié que le vin, c'est pas seulement de l'alcool, c'est pas seulement un goût de bois ou de très fort de banane, comme la fameuse levure qui parfume le Beaujolais industriel. Ça a des goûts et des arômes très, très simples, parfois très primaires, enfin du moins quand on commence à les découvrir, on en sent la cerise, la griotte.
Oui, mais je vais vous dire la blague que j'ai entendue. Oui, ce vin a un léger goût de banane, mais est-ce qu'il y a des bananes qui ont le goût du vin? Mais en vous écoutant, je me disais, finalement, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient... Alors, je ne sais pas si on dit sommelière ou sommelier. Est-ce que le goût des femmes en matière de vin, le goût des femmes est différent? Est-ce que... Comment verriez-vous la...
Je dois avouer que je n'ai pas tellement d'opinion là-dessus. Sans doute, des gens diront que... Oui, enfin, c'est des clichés, je pense... Je crois pas que il y a des goûts, après ils sont bons, ils sont pas bons.
Oui.
Il y a des sommeliers qui peuvent
avoir... Il y a une éducation quand même. Hein.
Oui, après le problème des sommeliers, où qu'ils soient, c'est qu'ils sont tout de même formatés. Alors ils peuvent être formatés d'ailleurs, y compris dans le monde du vin naturel. Moi je vois, dans des restaurants très, notamment parisiens, très célèbres pour leur vin naturel, il y a des sommeliers qui sont aussi pédants et aussi insupportables que les sommeliers des grands restaurants qui servent des grands vins classiques et traditionnels. Donc bon, sommelier, parfois ça peut être des gens formidables, mais c'est souvent des gens formatés et qui ont envie d'imposer leur vin plutôt que de répondre aussi aux curiosités et aux envies du client. Quoi.
Bien sûr. On parle de curiosité, on parle de connaissance. Enfin, moi, en vous lisant, je me dis, mais il faut de la mémoire également. Moi, j'aurais un mal fou à retenir tous ces noms, même si parfois, je suis capable d'apprécier un bon vin, mais il faut beaucoup de mémoire. Alors, il y a une dégustation qui m'avait fait sourire. C'était plutôt en début d'ouvrage, mais c'est peut-être un peu long. Un peu plus tard, les vignerons et un panel de convives durement choisis par Pousson prirent place autour des tables basses, dans la cave située au sous-sol des vendanges tardives. Est-ce que vous vous souvenez de ce passage?
Mmh. Oui. Oui, bien sûr.
Voilà. Alors, donc, on dégénère. Mon grand-père mesurait plus de 2 mètres. Moi, je mesure 1 m 90. Mon fils, à peine 1 m 80. On dégénère, je vous dis, et c'est comme ça pour tout.
Ça aussi, c'est une phrase que j'ai réellement entendue dans la bouche d'un vigneron, un très grand vigneron du Beaujolais, il y a 10 ans ou 15 ans, et elle m'avait frappé parce qu'elle était à la fois teintée d'un bon sens un peu limité, mais en même temps, il y a une charge amusante, poétique, enfin, on dirait du Marcel Aimé, quoi.
Oui,
c'est formidable, ces gens-là, enfin, ils ont un sens.
Des aphorismes voilà. qui sont très drôles. Christian Autier, je vais vous faire écouter une chanson que vous ne connaissez pas, la Romane Conti, et c'est une chanson d'Anne Sylvestre. Alors, autant vous dire qu'Anne Sylvestre est également connue pour ses chansons enfantines, mais ce n'est pas le cas, je pense, là.
J'ai bu et je m'en vante des 100 et des 50 bouteilles du meilleur. Bordeaux me pardonne, j'appartiens aux Bourgognes, en lui cuve mon cœur. J'en ai connu de braves, de tendres, de charmeurs. J'en ai connu de graves, de couronnés, de tout en fleurs. Mais je voudrais pas crever avant d'avoir goûté. Assure que je voudrais pas mourir avant d'avoir vu ces rubis couler dedans mon verre. C'est ma seule prière. Ah, laissez-moi boire à genoux la reine des vins de chez nous. La Romanée, la Romanée, la Romanée Conti. Romanée, la Romanée, la Romanée Conti. Sa splendeur est si grande qu'elle est une légende, bien plus qu'une boisson. Boire par ouï dire est un supplice pire que la pire prison. Que ceux qui la récoltent dans leur caveau secret comprennent ma révolte. Je doute enfin qu'elle soit vraie et je voudrais pas crever avant de l'avoir goûtée. Assure que j'arrêterai pas mon cœur avant d'avoir senti ses fleurs me réjouir la tête. Non, c'est vraiment trop bête d'avoir préparé mon palais pour qu'elle n'y vienne jamais. La Romanée, la Romanée, la Romanée Conti. La Romanée, la Romanée, la Romanée Conti. Il serait malhonnête de prétendre que cette chanson ne vise pas à provoquer manquer un geste en ma faveur, du reste pour en boire avec moi. Je jure sur mon âme qu'il faudra bien m'aimer. Je serai monogame pour ne pas devoir partager. Et je voudrais pas crever avant d'avoir goûté. Ah non, je finirai pas mes jours sans avoir senti son velours me réjouir la gorge. Si on vous interroge, dites que je veux bien ramper pour la plus petite lampée. De Romané, de Romané, de Romané Conti. Romané, de Romané, de Romané Conti.
Parole d'auteur Monique Fauché.
Et je retrouve Christian Autier, auteur des Heures Heureuses, paru chez Flammarion. Et hors antenne, Christian Autier me disait que la Romané Conti, il connaît, il a goûté. Juste un mot, c'est bon.
Ah oui, non, c'est étonnant, oui, c'est exceptionnel.
Oui, bon, c'est, oui, alors j'ai vu les prix sont exceptionnels aussi, mais vous m'avez dit qu'à plusieurs, vous aviez pu goûter un peu.
Oui, non, après il y a beaucoup de spéculations sur ces grands vins,
évidemment.
Et hélas, ce ne sont plus souvent des vins à boire, mais ce sont des vins qu'on achète et sur lesquels on spécule et qu'on vend sans cesse au fil des ans. Mais,
comme un tableau.
Oui, exactement, oui, comme de l'art.
Oui. Voilà, alors on rejoint Berthet, donc adepte des vins naturels, et puis on voit également... dans ce groupe d'originaux, de fantasques, de soifards quand même aussi, des réactionnaires, des déclinistes comme Stéphane et Joseph, c'est-à-dire qu'est-ce que des déclinistes?
Non, en fait, je corrige un peu la vision qu'on pourrait avoir de prime abord, c'est-à-dire c'est des gens dont on peut penser qu'ils regrettent l'abaissement de la culture, l'enseignement de l'ignorance,
oui,
etc.
Il y en a partout. Hein, comme
mais en fait, comme Thomas le perçoit assez bien, ce qu'ils regrettent surtout, c'est pas que c'était mieux avant, mais c'était qu'ils étaient plus jeunes, quoi, 20 ans avant. Et c'est ça, en fait, qui les rend touchants et qui les rend plus intéressants que la simple caricature des gens qui se plaignent du mauvais cours des choses, c'est que en fait ce sont des sentimentaux, quoi.
Oui, voilà, tout simplement. Alors Thomas a des propos, je dirais pas qu'il est décliniste, mais il a des propos désabusés sur l'amour en début d'ouvrage. À un moment donné, que lis-je? Il restait à Thomas beaucoup de choses à découvrir, l'amour bien sûr, cette chose étrange qui ne vaut pas un sou, bien que l'on puisse se damner, perdre tout maintien pour elle. Il connaîtrait peut-être l'amour qui ne peut se vivre que lorsque l'on est jeune et que l'on peut croire en son éternité, et peut-être aussi le désamour, les décors embrouillés, des soirées de chagrin, ce chagrin à devenir sourd, à devenir fou, et les trottoirs avec leurs flaques comme des larmes. Voilà, c'est un peu désabusé, c'est un peu... Mais il va quand même faire une rencontre et Zoé d'emblée m'est très sympathique. Et bien qu'elle porte des chaussures plates, ce qui n'est pas qui ne plaise pas à Thomas, on comprend qu'elle va l'aider à prendre, à s'éloigner un petit peu de ce milieu.
Oui, elle lui offre une respiration, un nouvel horizon. C'est une jeune fille assez originale aussi, un peu décalée comme Thomas dans son époque. Ils ressemblent, ils n'ont pas forcément les mêmes engouements, les mêmes enthousiasmes que les gens de leur âge, donc qui sont fascinés par la technologie, les soirées de beuverie, etc. Elle a des goûts un peu plus décalés, encore une fois, aristocratiques, si je puis dire. Elle aime les voyages, la poésie. Et donc, ces deux-là se sont bien trouvés. Lui va sentir le besoin auprès d'elle de s'éloigner naturellement de ses amis et de son employeur. Il ne va plus passer, comme c'était le cas, tous ces moments avec eux. Et va apprendre justement ce que vous disiez. Mais là, c'était pas Thomas qui parlait, c'était le narrateur, si je puis dire. Il va découvrir l'amour dans les meilleures conditions.
Elle est plutôt sage, discrète. Elle a une forme d'équilibre. Et je crois qu'elle lui fait du... Il me semble qu'elle lui fait du bien. Elle préfère croire ou espérer que des vertus ordinaires mais rares ont des vertus ordinaires mais rares, l'honnêteté, la générosité, la décence, l'humilité, l'attention aux autres. Quelle grâce lui avait valu de croiser la route de cette Zoé si anachronique, et mieux encore, que celle-ci le reconnaisse à son tour comme un frère d'âme, se demandait-il. Voilà, oui, donc c'est une belle rencontre. Et dans votre roman, on n'aura pas beaucoup de temps pour parler des considérations plus générales. Par exemple, le conformisme des anticonformismes, ça m'a fait rire. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait rire, et auxquelles j'adhère d'ailleurs, sur l'absence de recul, de réflexion des gens. Il y a une jeune femme qui a des propos incohérents finalement, mais on peut le lire avec beaucoup d'humour. Et puis, sur cette jeunesse à tout prix, que beaucoup s'escriment à maintenir. Et puis, vous parlez du changement dans la ville. Alors oui, alors là, effectivement, il y a des changements dans la ville. On ne peut qu'y souscrire. L'insécurité, enfin, le regretter surtout. L'insécurité, vous parlez d'une place bien connue à Toulouse que fréquentent les étudiants. Mais à 3h du matin, hélas, elle n'est plus fréquentable. Puis ce goût de la fête à tout prix. Puis l'institution de l'Office de la Tranquillité. Voilà, moi, ça, tout ça me fait beaucoup sourire. Et voilà. Alors, finalement, ce que j'ai retenu, moi, à un moment donné, on prédit à Thomas, ça va mal finir. Dans votre livre, on a souvent, dans vos livres, la notion du temps qui passe et de la fugacité des choses.
Oui, c'est exactement, j'allais dire, le thème, c'est un peu pompeux et un peu rasoir, mais oui, le motif central de mes livres, c'est les livres sur le temps, d'où parfois un ton un peu désenchanté ou nostalgique, et d'autres fois, au contraire, là, parfois plus j'allais dire, hédoniste et plus joyeux, comme dans celui-ci, mais bon, on n'en sort pas, hein, on vit avec le temps. Là, je regardais le chronomètre de l'ordinateur, si je puis dire, de l'émission. Oui, c'est ça qui est fascinant, qui est merveilleux et qui est effrayant. On sait
que tout est provisoire.
C'est ce temps, voilà, tout est doux. Parfois, chez mes personnages, où je leur prête une nostalgie par anticipation, c'est-à-dire ils sont tellement heureux qu'ils regrettent déjà le moment présent.
Oui, alors que finalement, il faut profiter du temps présent.
Oui, bien sûr.
Bien
oui.
sûr. Un grand merci, Christian
Hautier. Merci à vous.
Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit des heures heureuses, paru aux éditions Flammarion. Au revoir.